de l'intensité des étapes psychologiques, suite. Nous nous sommes bornés jusqu'ici à des sentiments et à des efforts, état complexe et dont l'intensité ne dépend pas absolument d'une cause extérieure. Mais les sensations nous apparaissent comme des états simples. En quoi consistera leur grandeur? L'intensité de ces sensations varie comme la cause extérieure dont elles passent pour être l'équivalent conscient. Mais comment expliquer l'invasion de la quantité dans un effet inextensif et cette fois indivisible? Pour répondre à cette question, il faut d'abord distinguer entre les sensations dites affectives et les sensations représentatives. Sans doute on passe graduellement des unes aux autres. Sans doute il entre un élément affectif dans la plupart de nos représentations simples. Mais rien n'empêche de le dégager et de rechercher séparément en quoi consiste l'intensité d'une sensation affective, plaisir ou douleur. Peut-être la difficulté de ce dernier problème tient-elle surtout à ce qu'on ne veut pas voir dans l'interaffectif autre chose que l'expression consciente d'un ébranlement organique ou le retentissement interne d'une cause extérieure. On remarque qu'à un plus grand ébranlement nerveux correspond généralement une sensation plus intense. Mais comme ces ébranlements sont inconscients, en tant que mouvement, puisqu'ils prennent pour la conscience l'aspect d'une sensation qui ne leur ressemble guère, on ne voit pas comment ils transmettraient dans la sensation quelque chose de leur propre grandeur. Car il n'y a rien de commun, nous le répétons, entre des grandeurs superposables telles que des amplitudes de vibrations, par exemple, et des sensations qui n'occupent point d'espace. Si la sensation plus intense nous paraît contenir la sensation de moindre intensité, si elle revêt pour nous, comme l'ébranlement organique lui-même, la forme d'une grandeur, c'est vraisemblablement qu'elle conserve quelque chose de l'ébranlement physique auquel elle correspond. Mais elle n'en conservera rien si elle n'est que la traduction consciente d'un mouvement de molécules. Car précisément parce que ce mouvement se traduit en sensation de plaisir ou de douleur, il demeure inconscient en tant que mouvement moléculaire. Mais on pourrait se demander si le plaisir et la douleur, au lieu d'exprimer seulement ce qui vient de se passer ou ce qui se passe dans l'organisme, comme on le croit d'ordinaire, n'indiquerait pas aussi ce qui va s'y produire, ce qui tente à s'y passer. Il semble en effet assez peu vraisemblable que la nature, si profondément utilitaire, ait assigné ici à la conscience la tâche toute scientifique de nous renseigner sur le passé ou le présent qui ne dépendent plus de nous. Il faut remarquer en outre qu'on s'élève par degrés insensibles des mouvements automatiques aux mouvements libres, et que ces derniers diffèrent surtout des précédents en ce qu'ils nous présentent entre l'action extérieure qui en est l'occasion et la réaction voulue qui s'ensuit, une sensation affective intercalée. On pourrait même concevoir que toutes nos actions fussent automatiques, et l'on connaît d'ailleurs une infinie variété d'êtres organisé, chez qui une excitation extérieure engendre une réaction déterminée sans passer par l'intermédiaire de la conscience. Si le plaisir et la douleur se produisent chez quelques privilégiés, c'est vraisemblablement pour autoriser de leur part une résistance à la réaction automatique qui se produirait. Ou la sensation n'a pas de raison d'être, ou c'est un commencement de liberté. Mais comment nous permettrait-elle de résister à la réaction qui se prépare si elle nous en faisait connaître la nature par quelques signes précis? Et quel peut être ce signe, si dans l'esquisse est comme la préformation des mouvements automatiques futurs au sein même de la sensation éprouvée? L'état affectif ne doit donc pas correspondre seulement aux ébranlements, aux mouvements ou aux phénomènes physiques qui ont été, mais encore et surtout à ceux qui se préparent, à ceux qui voudraient être. Il est vrai qu'on ne voit pas d'abord comment cette hypothèse simplifie le problème. Car nous cherchons ce qu'il peut y avoir de commun entre un phénomène physique et un état de conscience au point de vue de la grandeur. Et il semble qu'on se borne à retourner la difficulté quand on fait de l'état de conscience présent un indice de la réaction à venir, plutôt qu'une traduction psychique de l'excitation passée. La différence est considérable cependant entre les deux hypothèses, car les ébranlements moléculaires dont on parlait tout à l'heure étaient nécessairement inconscients, puisque rien ne pouvait subsister de ces mouvements eux-mêmes dans la sensation qui les traduisait. Mais les mouvements automatiques qui tendent à suivre l'excitation subie et qui en constitueraient le prolongement naturel sont vraisemblablement conscients en tant que mouvement. Ou bien alors la sensation elle-même, dont le rôle est de nous inviter à un choix entre cette réaction automatique et d'autres mouvements possibles, n'aurait aucune raison d'être. L'intensité des sensations affectives ne serait donc que la conscience que nous prenons des mouvements involontaires qui commencent, qui se dessinent en quelque sorte dans ces états et qui auraient suivi leur libre cours si la nature eût fait de nous des automates et non des êtres conscients. Si ce raisonnement est fondé, on ne devra pas comparer une douleur d'intensité croissante à une note de la gamme qui deviendrait de plus en plus sonore, mais plutôt à une symphonie où un nombre croissant d'instruments se ferait entendre. Au sein de la sensation caractéristique qui donne le ton à toutes les autres, la conscience démêlera une multiplicité plus ou moins considérable de sensations émanant des différents points de la périphérie, contractions musculaires, mouvements organiques de tout genre. Le concert de ces états psychiques élémentaires exprime les exigences nouvelles de l'organisme en présence de la nouvelle situation qui lui est faite. En d'autres termes, nous évaluons l'intensité d'une douleur à l'intérêt qu'une partie plus ou moins grande de l'organisme veut bien y prendre. M. Richet a observé qu'on rapportait son mal à un endroit d'autant plus précis que la douleur est plus faible. Si elle devient plus intense, on la rapporte à tout le membre malade. Et il conclut en disant que la douleur s'irradie d'autant plus qu'elle est plus intense. Nous croyons qu'il faut retourner cette proposition et définir précisément l'intensité de la douleur par le nombre et l'étendue des parties du corps qui sympathisent avec elle et réagissent aux vues et sues de la conscience. Il suffira pour s'en convaincre de lire la remarquable description que le même auteur a donnée du dégoût. Si l'excitation est faible, il peut avoir ni nausée ni vomissement. Mais si l'excitation est plus forte, au lieu de se limiter au pneumogastrique, elle s'irradie et porte sur presque tout le système de la vie organique. La face pâlit, les muscles lisses de la peau se contractent, la peau se couvre d'une sueur froide, le cœur suspend ses battements. En un mot, il y a perturbation organique générale consécutive à l'excitation de la moelle allongée, et cette perturbation est l'expression suprême du dégoût. Oui, mais n'en est-elle que l'expression? En quoi consistera donc la sensation générale de dégoût, sinon dans la somme de ces sensations élémentaires? Et que pouvons-nous entendre ici par intensité croissante, si ce n'est le nombre toujours croissant de sensations qui viennent s'ajouter aux sensations déjà aperçues? Darwin a tracé une peinture saisissante des réactions consécutives à une douleur de plus en plus aiguë. Elle pousse l'animal à exécuter les efforts les plus violents, les plus variés, pour échapper à la cause qui le produit. Dans la souffrance intense, la bouche se contracte fortement, les lèvres se crispent, les dents se serrent. Tantôt les yeux s'ouvrent tout grands, tantôt les sourcils se contractent fortement et le corps est baigné de sueur. La circulation se modifie ainsi que la respiration. Bien, n'est-ce pas précisément à cette contraction des muscles intéressés que nous mesurons l'intensité d'une douleur? Analysez l'idée que vous vous faites d'une souffrance que vous déclarez extrême. N'entendez-vous pas par là qu'elle est insupportable, c'est-à-dire qu'elle incite l'organisme à mille actions diverses pour y échapper? On conçoit qu'un nerf transmette une douleur indépendante de toute réaction automatique. On conçoit aussi que des excitations plus ou moins fortes influencent ce nerf diversement. Mais ces différences de sensations ne seraient point interprétées par votre conscience comme des différences de quantité si vous n'y rattachiez les réactions plus ou moins étendues, plus ou moins graves, qui ont coutume de les accompagner. Sans ces réactions consécutives, l'intensité de la douleur serait une qualité et non pas une grandeur. Nous n'avons guère d'autres moyens pour comparer entre eux plusieurs plaisirs. Qu'est-ce qu'un plus grand plaisir, sinon un plaisir préféré? Et que peut-être notre préférence, sinon une certaine disposition de nos organes, qui fait que, les deux plaisirs se présentant simultanément à notre esprit, notre corps incline vers l'un d'eux? Analysez cette inclination elle-même, et vous y trouverez mille petits mouvements qui commencent, qui se dessinent dans les organes intéressés, et même dans le reste du corps, comme si l'organisme allait au-devant du plaisir représenté. Quand on définit l'inclination en un mouvement, on ne fait pas une métaphore. En présence de plusieurs plaisirs conçus par l'intelligence, notre corps s'oriente vers l'un d'eux spontanément, comme par une action réflexe. Il dépend de nous de l'arrêter, mais l'attrait du plaisir n'est point autre chose que ce mouvement commencé, et l'acuité même du plaisir, pendant qu'on le goûte, n'est que l'inertie de l'organisme qui s'y noie, refusant toute autre sensation. Sans cette force d'inertie dont nous prenons conscience par la résistance que nous opposons à ce qui pourrait nous distraire, le plaisir serait encore un état, mais non plus une grandeur. Dans le monde moral, comme dans le monde physique, l'attraction sert à expliquer le mouvement plutôt qu'à le produire. Nous avons étudié à part les sensations affectives. Remarquons maintenant que beaucoup de sensations représentatives ont un caractère affectif et provoquent ainsi de notre part une réaction dont nous tenons compte dans l'appréciation de leur intensité. Un accroissement considérable de la lumière se traduit pour nous par une sensation caractéristique, qui n'est pas encore de la douleur, mais qui présente des analogies avec l'éblouissement. À mesure que l'amplitude de la vibration sonore augmente, notre tête, puis notre corps, nous font l'effet de vibrer ou de recevoir un choc. Certaines sensations représentatives, celles de saveur, d'odeur et de température, ont même constamment un caractère agréable ou désagréable. Entre des saveurs plus ou moins amères, vous ne démêleriez guère que des différences de qualité. Ce sont comme les nuances d'une même couleur. Mais ces différences de qualité s'interprètent aussi comme des différences de quantité à cause de leur caractère affectif et des mouvements plus ou moins prononcés de réaction, plaisir ou dégoût qu'elles nous suggèrent. En outre, même quand la sensation reste purement représentative, sa cause extérieure ne peut dépasser un certain degré de force ou de faiblesse sans provoquer de notre part des mouvements qui nous servent à la mesurer. Tantôt, en effet, nous avons à faire effort pour apercevoir cette sensation comme si elle se dérobait, et tantôt, au contraire, elle nous envahit, s'impose à nous et nous absorbe de telle manière que nous employons tout notre effort à nous en dégager et à rester nous-mêmes. La sensation est dite peu intense dans le premier cas et très intense dans l'autre. Ainsi, pour percevoir un son lointain, pour distinguer ce que nous appelons une odeur légère et une faible lumière, nous tendons tous les ressorts de notre activité, nous faisons attention. Et c'est justement parce que l'odeur et la lumière demandent alors à se renforcer de notre effort qu'elles nous paraissent faibles. Inversement, nous reconnaissons la sensation d'intensité extrême aux mouvements irrésistibles de réaction automatique qu'elles provoquent de notre part, ou à l'impuissance dont elles nous frappent. Un coup de canon tiré à nos oreilles, une lumière éblouissante s'allumant tout à coup, nous enlève pendant un instant la conscience de notre personnalité. Cet état pourra même se prolonger chez un sujet prédisposé. Il faut ajouter que même dans la région des intensités dites moyennes, alors qu'on traite d'égal à égal avec la sensation représentative, nous en apprécions souvent l'importance en la comparant à une autre qu'elle supplante ou en tenant compte de la persistance avec laquelle elle revient. Ainsi, le tic-tac d'une montre paraît plus sonore pendant la nuit parce qu'il absorbe sans peine une conscience presque vide de sensations et d'idées. Des étrangers conversant entre eux dans une langue que nous ne comprenons point nous font l'effet de parler très haut parce que leurs paroles, n'évoquant plus d'idées dans notre esprit, éclatent au milieu d'une espèce de silence intellectuel et accaparent notre attention comme le tic-tac d'une montre pendant la nuit. Toutefois, avec ces sensations dites moyennes, nous abordons une série d'étapes psychiques dont l'intensité doit avoir une signification nouvelle. Car la plupart du temps, l'organisme ne réagit guère, du moins d'une manière apparente. Et pourtant, nous érigeons encore en grandeur une hauteur de son, une intensité de lumière, une saturation de couleur. Sans doute, l'observation minutieuse de ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisme, quand nous entendons telle ou telle note, quand nous percevons telle ou telle couleur, nous réserve plus de surprise. Monsieur Charles Ferré, n'a-t-il pas montré que toute sensation est accompagnée d'une augmentation de force musculaire, mesurable au dynamomètre ? Toutefois, cette augmentation ne frappe guère la conscience, et si l'on réfléchit à la précision avec laquelle nous distinguons les sons et les couleurs, voire les poids et les températures, on devinera sans peine qu'un nouvel élément d'appréciation doit entrer ici en jeu. La nature de cet élément est d'ailleurs aisée à déterminer. À mesure en effet qu'une sensation perd son caractère affectif pour passer à l'état de représentation, les mouvements de réaction qu'elle provoquait de notre part tendent à s'effacer. Mais aussi nous apercevons l'objet extérieur qui en est la cause, ou si nous ne l'apercevons pas, nous l'avons aperçu et nous y pensons. Or, cette cause est extensive et par conséquent mesurable. Une expérience de tous les instants qui a commencé avec les premières lueurs de la conscience et qui se poursuit pendant notre existence entière nous montre une nuance déterminée de la sensation répondant à une valeur déterminée de l'excitation. Nous associons alors à une certaine qualité de l'effet l'idée d'une certaine quantité de la cause. Et finalement, comme il arrive pour toute perception acquise, nous mettons l'idée dans la sensation, la quantité de la cause dans la qualité de l'effet. À ce moment précis, l'intensité, qui n'était qu'une certaine nuance ou qualité de la sensation, devient une grandeur. On se rendra facilement compte de ce processus en tenant une épingle dans la main droite, par exemple, et en se piquant de plus en plus profondément la main gauche. Vous sentirez d'abord comme un chatouillement, puis un contact auquel succède une piqûre, ensuite une douleur localisée en un point, enfin une irradiation de cette douleur dans la zone environnante. Et plus vous y réfléchirez, plus vous verrez que ce sont là autant de sensations qualitativement distinctes, autant de variétés d'une même espèce. Pourtant, vous parliez d'abord d'une seule et même sensation de plus en plus envahissante, d'une piqûre de plus en plus intense. C'est que, sans y prendre garde, vous localisiez dans la sensation de la main gauche qui est piquée, l'effort progressif de la main droite qui la pique. Vous introduisiez ainsi la cause dans les faits et vous interprétiez inconsciemment la qualité en quantité, l'intensité en grandeur. Il est aisé de voir que l'intensité de toute sensation représentative doit s'entendre de la même manière. Les sensations de son nous présentent des degrés bien accusés d'intensité. Nous avons déjà dit qu'il fallait tenir compte du caractère affectif de ces sensations, de la secousse reçue par l'ensemble de l'organisme. Nous avons montré qu'un son très intense est celui qui absorbe notre attention, qui supplante tous les autres. Mais faites abstraction du choc, de la vibration bien caractérisée que vous ressentez parfois dans la tête ou même dans tout le corps. Faites abstraction de la concurrence que se font entre eux les sons simultanés. Que restera-t-il, sinon une indéfinissable qualité du son entendu? Seulement cette qualité s'interprète aussitôt en quantité parce que vous l'avez mille fois obtenue vous-même en frappant un objet, par exemple, et en fournissant par là une quantité déterminée d'efforts. Vous savez aussi jusqu'à quel point vous auriez à enfler votre voix pour produire un son analogue, et l'idée de cet effort se présente instantanément à votre esprit quand vous érigez l'intensité du son en grandeur. Wundt a attiré l'attention sur les liaisons toutes particulières de filets nerveux, vocaux et auditifs qui s'effectuent dans le cerveau humain. N'a-t-on pas dit qu'entendre, c'est se parler à soi-même? Certains névropathes ne peuvent assister à une conversation sans remuer les lèvres. Ce n'est là qu'une exagération de ce qui se passe chez chacun de nous. Comprendrait-on le pouvoir expressif ou plutôt suggestif de la musique si l'on n'admettait pas que nous répétons intérieurement les sons entendus de manière à nous replacer dans l'état psychologique d'où ils sont sortis, état original, qu'on ne saurait exprimer mais que les mouvements adoptés par l'ensemble de notre corps nous suggèrent? Quand nous parlons de l'intensité d'un son de force moyenne comme d'une grandeur, nous faisons donc surtout allusion au plus ou moins grand effort que nous aurions à fournir pour nous procurer à nouveau la même sensation auditive. Mais à côté de l'intensité, nous distinguons une autre propriété caractéristique du son, la hauteur. Les différences de hauteur telles que notre oreille les perçoit sont-elles des différences quantitatives? Nous accordons qu'une acuité supérieure de son évoque l'image d'une situation plus élevée dans l'espace. Mais suit-il de là que les notes de la gamme, en tant que sensations auditives, diffèrent autrement que par la qualité? Oubliez ce que la physique vous a appris. Examinez avec soin l'idée que vous avez d'une note plus ou moins haute. Et dites-moi si vous ne pensez pas tout simplement au plus ou moins grand effort que le muscle tenseur de vos cordes vocales aurait à fournir pour donner la note à son tour. Comme l'effort par lequel votre voix passe d'une note à la suivante est discontinu, vous vous représentez ces notes successives comme des points de l'espace qu'on atteindrait l'un après l'autre par des sauts brusques, en franchissant chaque fois un intervalle vide qui les sépare. Et c'est pourquoi vous établissez des intervalles entre les notes de la gamme. Reste à savoir, il est vrai, pourquoi la ligne sur laquelle nous les échelonnons est verticale plutôt qu'horizontale, et pourquoi nous disons que le son monte dans certains cas et descend dans d'autres. Il est incontestable que les notes aiguës nous paraissent produire des effets de résonance dans la tête et de notes graves dans la cage thoracique. Cette perception, réelle ou illusoire, a contribué sans doute à nous faire compter verticalement les intervalles. Mais il faut remarquer aussi que plus l'effort de tension des cordes vocales est considérable dans la voix de poitrine, plus grande est la surface du corps qui s'y intéresse chez le chanteur inexpérimenté. C'est même pourquoi l'effort est senti par lui comme plus intense. Et comme il expire l'air de bas en haut, il attribuera la même direction au son que le courant d'air produit. C'est donc par un mouvement de bas en haut que se traduira la sympathie d'une plus grande partie du corps avec les muscles de la voix. Nous dirons alors que la note est plus haute, parce que le corps fait un effort comme pour atteindre un objet plus élevé dans l'espace. Et l'habitus est ainsi contracté d'assigner une hauteur à chaque note de la gamme, et le jour où le physicien a pu la définir par le nombre de vibrations auxquelles elle correspond dans un temps donné, nous n'avons plus hésité à dire que notre oreille percevait directement des différences de quantité. Mais le son resterait qualité pure si nous n'y introduisions les formes musculaires qui le produiraient ou la vibration qui l'explique. Les expériences récentes de Blix, Goldschneider et Donaldson ont montré que ce ne sont pas les mêmes points de la surface du corps qui sentent le froid et la chaleur. La physiologie incline donc dès maintenant à établir entre les sensations de chaud et de froid une distinction de nature et non plus de degré. Mais l'observation psychologique va plus loin, car une conscience attentive trouverait sans peine des différences spécifiques entre les différentes sensations de chaleur comme aussi entre les sensations de froid. Une chaleur plus intense est réellement une chaleur autre. Nous la disons plus intense parce que nous avons mille fois éprouvé ce même changement quand nous nous rapprochions d'une source de chaleur ou quand une plus grande surface de notre corps en était impressionnée. En outre, les sensations de chaleur et de froid deviennent bien vite affectives et provoquent alors de notre part des réactions plus ou moins accentuées qui en mesurent la cause extérieure. Comment n'établirions-nous pas des différences quantitatives analogues entre les sensations qui correspondent à des puissances intermédiaires de cette cause? Nous n'insisterons pas davantage. Il appartient à chacun de s'interroger scrupuleusement sur ce point, en faisant table rase de tout ce que son expérience passée lui a appris sur la cause de sa sensation, en se plaçant face à face avec cette sensation elle-même. Le résultat de cet examen ne nous paraît pas douteux. On s'apercevra bien vite que la grandeur de la sensation représentative tient à ce qu'on mettait la cause dans les faits et l'intensité de l'élément affectif à ce qu'on introduisait dans la sensation, les mouvements de réaction plus ou moins importants qui continuent l'excitation extérieure. Nous solliciterons le même examen pour les sensations de pression et même de poids. Quand vous dites qu'une pression exercée sur votre main devient de plus en plus forte, voyez si vous ne vous représentez pas par là que le contact est devenu pression puis douleur, et que cette douleur elle-même, après avoir passé par plusieurs phases, s'est irradiée dans la région environnante. Voyez encore, voyez surtout, si vous ne faites pas intervenir l'effort antagoniste de plus en plus intense, c'est-à-dire de plus en plus étendu, que vous opposez à la pression extérieure. Lorsque le psychophysicien soulève un poids plus lourd, il éprouve, dit-il, un accroissement de sensation. Examinez si cet accroissement de sensation ne devrait pas plutôt s'appeler une sensation d'accroissement. Toute la question est là. Car dans le premier cas, la sensation serait d'une quantité, comme sa cause extérieure, et dans le second, une qualité, devenue représentative de la grandeur de la cause. La distinction du lourd et du léger pourra paraître aussi arriérée et aussi naïve que celle du chaud et du froid. Mais la naïveté même de cette distinction en fait une réalité psychologique. Et non seulement le lourd et le léger constituent pour notre conscience des genres différents, mais les degrés de légèreté et de lourdeur sont autant d'espèces de ces deux genres. Il faut ajouter que la différence de qualité se traduit spontanément ici en différence de quantité à cause de l'effort plus ou moins étendu que notre corps fournit pour soulever un poids donné. Vous vous en convaincrez sans peine si l'on vous invite à soulever un panier que l'on vous aura dit rempli de ferraille, alors qu'il est vide en réalité. Vous croirez perdre l'équilibre en le saisissant, comme si des muscles étrangers s'étaient intéressés par avance à l'opération et en éprouvaient un brusque désappointement. C'est surtout au nombre et à la nature de ces efforts sympathiques accomplis sur divers points de l'organisme que vous mesurez la sensation de pesanteur en un point donné. Et cette sensation ne serait qu'une qualité si vous n'y introduisiez ainsi l'idée d'une grandeur. Ce qui fortifie d'ailleurs votre illusion sur ce point, c'est l'habitude contractée de croire à la perception immédiate d'un mouvement homogène dans un espace homogène. Quand je soulève avec le bras un poids léger, tout le reste de mon corps demeurant immobile, j'éprouve une série de sensations musculaires dont chacune a son signe local, sa nuance propre. C'est cette série que ma conscience interprète dans le sens d'un mouvement continu dans l'espace. Et si je soulève ensuite à la même hauteur et avec la même vitesse un poids plus lourd, je passe par une nouvelle série de sensations musculaires dont chacune diffère du ferme correspondant de la série précédente. C'est de quoi je me convaincrai sans peine en les examinant bien. Mais comme j'interprète cette nouvelle série, elle aussi, dans le sens d'un mouvement continu, comme ce mouvement a la même direction, la même durée, la même vitesse que le précédent, il faut bien que ma conscience localise ailleurs que dans le mouvement lui-même la différence entre la seconde série de sensations et la première. Elle matérialise alors cette différence à l'extrémité du bras qui se meut. Elle se persuade que la sensation du mouvement a été identique dans les deux cas, tandis que la sensation de poids différait de grandeur. Mais mouvement et poids sont des distinctions de la conscience réfléchie. La conscience immédiate à la sensation d'un mouvement pesant, en quelque sorte, et cette sensation elle-même, se résout à l'analyse en une série de sensations musculaires, dont chacune représente par sa nuance le lieu où elle se produit et par sa coloration la grandeur du poids qu'on soulève. Appellerons-nous quantité ou traiterons-nous comme une qualité l'intensité de la lumière? On n'a peut-être pas assez remarqué la multitude d'éléments très différents qui concourent dans la vie journalière à nous renseigner sur la nature de la source lumineuse. Nous savons de longue date que cette lumière est éloignée ou près de s'éteindre quand nous avons de la peine à démêler les contours et les détails des objets. L'expérience nous a appris qu'il fallait attribuer à une puissance supérieure de la cause de cette sensation affective, prélude de l'éblouissement que nous éprouvons dans certains cas. Selon qu'on augmente ou qu'on diminue le nombre des sources de lumière, les arêtes des corps ne se détachent pas de la même manière, non plus que les ombres qu'ils projettent. Mais il faut faire une part plus large encore, croyons-nous, au changement de teinte que subissent les surfaces colorées. Même les couleurs pures du spectre, sous l'influence d'une lumière plus faible ou plus brillante. À mesure que la source lumineuse se rapproche, le violet prend une teinte bleuâtre, le vert tantôt jaune blanchâtre et le rouge au jaune brillant. Inversement, quand cette lumière s'éloigne, le bleu d'outre-mer passe au violet, le jaune au vert. Finalement, le rouge, le vert et le violet se rapprochent du jaune blanchâtre. Ces changements de teinte ont été remarqués depuis un certain temps par les physiciens. Mais ce qui est autrement remarquable, selon nous, c'est que la plupart des hommes ne s'en aperçoivent guère, à moins d'y prêter attention ou d'en être avertis. Décidés à interpréter les changements de qualité en changements de quantité, Nous commençons par poser en principe que tout objet a sa couleur propre, déterminée et invariable. Et quand la teinte des objets se rapprochera du jaune ou du bleu, au lieu de dire que nous voyons leur couleur changer sous l'influence d'un accroissement ou d'une diminution d'éclairage, nous affirmerons que cette couleur reste la même, mais que notre sensation d'intensité lumineuse augmente ou diminue. Nous substituons donc encore à l'impression qualitative que notre conscience reçoit l'impression quantitative que notre entendement en donne. Helmholtz a signalé un phénomène d'interprétation du même genre, mais plus compliqué encore. Si l'on compose du blanc, dit-il, avec deux couleurs spectrales, et qu'on augmente ou diminue dans le même rapport les intensités des deux lumières chromatiques, de telle sorte que les proportions du mélange restent les mêmes, la couleur résultante reste la même, bien que le rapport d'intensité des sensations change notablement. Cela tient à ce que la lumière solaire, que nous considérons comme étant le blanc normal pendant le jour, subit elle-même, quand l'intensité lumineuse varie, des modifications analogues de sa nuance. Toutefois, si nous jugeons souvent des variations de la source lumineuse par les changements relatifs de teinte des objets qui nous entourent, il n'en est plus ainsi dans les cas simples où un objet unique, une surface blanche par exemple, passe successivement par différents degrés de luminosité. Nous devons insister tout particulièrement sur ce dernier point. La physique nous parle en effet des degrés d'intensité lumineuse comme de quantité véritable. Ne les mesure-t-elle pas au photomètre ? Le psychophysicien va plus loin encore. Il prétend que notre œil évalue lui-même les intensités de la lumière. Des expériences ont été tentées par M. Delboeuf d'abord, puis par M. Lehmann et Naiglick, pour établir une formule psychophysique sur la mensuration directe de nos sensations lumineuses. Nous ne contesterons pas les résultats de ces expériences, non plus que la valeur des procédés photométriques, mais tout dépend de l'interprétation qu'on en donne. Considérez attentivement une feuille de papier éclairée par quatre bougies, par exemple, et faites éteindre successivement une, deux, trois d'entre elles. Vous dites que la surface reste blanche et que son éclat diminue. Vous savez en effet qu'on vient d'éteindre une bougie. Ou si vous ne le savez pas, vous avez bien des fois noté un changement analogue dans l'aspect d'une surface blanche quand on diminuait l'éclairage. Mais faites abstraction de vos souvenirs et de vos habitudes de langage. Ce que vous avez aperçu réellement, ce n'est pas une diminution d'éclairage de la surface blanche. C'est une couche d'ombre passant sur cette surface au moment où s'éteignait la bougie. Cette ombre est une réalité pour votre conscience, comme la lumière elle-même. Si vous appeliez blanche la surface primitive dans tout son éclat, il faudra donner un autre nom à ce que vous voyez, car c'est autre chose. Ce serait, si l'on pouvait parler ainsi, une nouvelle nuance du blanc. Faut-il maintenant tout dire ? Nous avons été habitués par notre expérience passée et aussi par les théories physiques à considérer le noir comme une absence ou tout au moins comme un minimum de sensations lumineuses et les nuances successives du gris comme les intensités décroissantes de la lumière blanche. Eh bien, le noir a autant de réalité pour notre conscience que le blanc et les intensités décroissantes de la lumière blanche éclairant une surface donnée seraient, pour une conscience non prévenue, autant de nuances différentes à ses analogues aux différentes couleurs du spectre. Ce qui le prouve bien, c'est que le changement n'est pas continu dans la sensation comme dans sa cause extérieure. C'est que la lumière peut croître ou diminuer pendant un certain temps sans que l'éclairage de notre surface blanche nous paraisse changer. Il ne paraîtra changer, en effet, que lorsque l'accroissement ou la diminution de la lumière extérieure suffiront à la création d'une qualité nouvelle. les variations d'éclat d'une couleur donnée, l'abstraction faite des sensations affectives dont il a été parlé plus haut, se réduirait donc à des changements qualitatifs si nous n'avions pas contracté l'habitude de mettre la cause dans les faits et de substituer à notre impression naïve ce que l'expérience et la science nous apprennent. On en dirait autant des degrés de saturation. En effet, si les diverses intensités d'une couleur correspondent à autant de nuances différentes comprises entre cette couleur et le noir, les degrés de saturation sont comme des nuances intermédiaires entre cette même couleur et le blanc pur. Toute couleur, dirions-nous, peut être envisagée sous un double aspect, au point de vue du noir et au point de vue du blanc. Le noir serait à l'intensité ce que le blanc est à la saturation. On comprendra maintenant le sens des expériences photométriques. Une bougie placée à une certaine distance d'une feuille de papier l'éclaire d'une certaine manière. Vous doublez la distance et vous constatez qu'il faut 4 bougies pour éveiller en vous la même sensation. De là, vous concluez que si vous aviez doublé la distance sans augmenter l'intensité de la source lumineuse, l'effet d'éclairage eût été 4 fois moins considérable. Mais il est trop évident qu'il s'agit ici de l'effet physique et non pas psychologique. Car on ne peut pas dire que nous ayons comparé 2 sensations entre elles. Nous avons utilisé une sensation unique pour comparer entre elles 2 sources lumineuses différentes, la seconde quadruple de la première, mais 2 fois plus éloignée qu'elle. En un mot, le physicien ne fait jamais intervenir des sensations doubles ou triples les unes des autres, mais seulement des sensations identiques, destinées à servir d'intermédiaire entre 2 quantités physiques qu'on pourra alors égaler l'une à l'autre. La sensation lumineuse joue ici le rôle de ces inconnus auxiliaires que le mathématicien a introduit dans ses calculs et qui disparaissent du résultat final. Tout autre est l'objet du psychophysicien. C'est la sensation lumineuse elle-même qu'il étudie et qu'il prétend mesurer. Tantôt, il procédera à une intégration de différentes infiniment petites selon la méthode de Fechner. Tantôt, il comparera directement une sensation à une autre sensation. Cette dernière méthode, due à Plateau et à Delbeu, diffère beaucoup moins qu'on ne l'a cru jusqu'ici de celle de Fechner. Mais, comme elle porte plus spécialement sur les sensations lumineuses, nous nous en occuperons d'abord. M. Delbeuf place un observateur en présence de 3 anneaux concentriques à éclat variable. Un dispositif ingénieux lui permet de faire passer chacun de ces anneaux par toutes les teintes intermédiaires entre le blanc et le noir. Supposons 2 de ces teintes grises simultanément produites sur 2 anneaux et maintenues invariables. Nous les appellerons A et B, par exemple. M. Delbeuf fait varier l'éclat C du 3e anneau et demande à l'observateur de lui dire si à un moment donné la teinte grise B lui paraît également éloignée des 2 autres. Un moment arrive en effet où celui-ci déclare le contraste AB égal au contraste BC. De telle sorte qu'on pourrait construire, selon M. Delbeuf, une échelle d'intensité lumineuse où l'on passerait de chaque sensation à la suivante par contrastes sensibles égaux. Nos sensations se mesuraient ainsi les unes par les autres. Nous ne suivrons pas M. Delbeuf dans les conclusions qu'il a tirées de ses remarquables expériences. La question essentielle, la question unique selon nous, est de savoir si un contraste AB formé des différents éléments A et B est réellement égal à un contraste BC composé différemment. Le jour où l'on aurait établi que 2 sensations peuvent être égales sans être identiques, la psychophysique serait fondée. Mais c'est cette égalité qui nous paraît contestable. Il est facile d'expliquer en effet comment une sensation d'intensité lumineuse peut être dite à égale distance de deux autres. Supposons un instant que, depuis notre naissance, les variations d'intensité d'une source lumineuse se fussent traduites dans notre conscience par la perception successive des diverses couleurs du spectre. Il n'est pas douteux que ces couleurs nous apparaîtraient alors comme autant de notes d'une gamme, comme des degrés plus ou moins élevés, dans une échelle, comme des grandeurs en un mot. Mais d'autre part, il nous serait facile d'assigner à chacune d'elles sa place dans la série. En effet, si la cause extensive varie d'une manière continue, la sensation colorée change d'une manière discontinue, passant d'une nuance à une autre nuance. Et quelque nombreuses que puissent donc être les nuances intermédiaires entre deux couleurs A et B, on pourra toujours les compter par la pensée, du moins grossièrement, et vérifier si ce nombre est à peu près égal à celui des nuances qui sépare B d'une autre couleur C. Et dans ce dernier cas, on dira que B est également distinct de A et de C, que le contraste est le même de part et d'autre. Mais ce ne sera toujours là qu'une interprétation commode. Car bien que le nombre des nuances intermédiaires soit égal des deux côtés, bien que l'on passe de l'une à l'autre par des sauts brusques, nous ne savons pas si ces sauts sont des grandeurs, ni des grandeurs égales. Surtout, il faudrait nous montrer que les intermédiaires qui ont servi à la mesure se retrouvent en quelque sorte au sein de l'objet mesuré. Sinon, c'est par métaphore seulement qu'une sensation pourrait être dite à égale distance de deux autres. Or, si l'on veut bien nous accorder ce que nous disions plus haut des intensités lumineuses, on reconnaîtra que les diverses teintes grises présentées par M. Delboeuf à notre observation sont tout à fait analogues pour notre conscience à des couleurs, et que si nous déclarons une teinte grise équidistante de deux autres teintes grises, c'est dans le même sens où l'on pourrait dire que l'orangé, par exemple, est à égale distance du vert et du rouge. Seulement, il y a cette différence que dans toute notre expérience passée, la succession des teintes grises s'est produite à propos d'une augmentation ou d'une diminution progressive d'éclairage. De là vient que nous faisons pour les différences d'éclat ce que nous ne songeons pas à faire pour les différences de coloration. Nous érigeons les changements de qualité en variations de grandeur. La mesure se fait d'ailleurs sans peine, parce que les nuances successives du gris, amenées par une diminution continue d'éclairage, sont discontinues, étant des qualités et que nous pouvons compter approximativement les principaux intermédiaires qui séparent deux d'entre elles. Le contraste AB sera donc déclaré égal au contraste BC quand notre imagination, aidée de notre mémoire, interposera de part et d'autre le même nombre de points de repère. Cette appréciation devra d'ailleurs être des plus grossières, et l'on peut prévoir qu'elle variera considérablement avec les personnes. Surtout, il faut s'attendre à ce que les hésitations et les écarts d'appréciation soient d'autant plus marqués qu'on augmentera davantage la différence d'éclat entre les anneaux A et B, car un effort de plus en plus pénible sera requis pour évaluer le nombre des teintes intercalaires. C'est précisément ce qui arrive, comme on s'en convaincra sans peine, en jetant un coup d'œil sur les deux tableaux dressés par M. Delboeuf. À mesure qu'il fait croître la différence d'éclat entre l'anneau extérieur et l'anneau moyen, l'écart entre les chiffres auxquels s'arrête tour à tour un même observateur ou des observateurs différents augmente d'une manière à peu près continue de 3 degrés à 94, de 5 à 73, de 10 à 25, de 7 à 40. Mais laissons de côté ces écarts. Supposons que les observateurs soient toujours d'accord avec eux-mêmes, toujours d'accord entre eux. Aura-t-on établi que les contrastes AB et BC soient égaux? Il faudrait d'abord avoir prouvé que deux contrastes élémentaires successifs sont des qualités égales, et nous savons seulement qu'ils sont successifs. Il faudrait ensuite avoir établi qu'on retrouve dans une teinte grise donnée les teintes inférieures par lesquelles notre imagination a passé pour évaluer l'intensité objective de la sourde lumière. En un mot, la psychophysique de M. Delboeuf suppose un postulat théorique de la plus haute importance qui se dissimule en vain sous des apparences expérimentales et que nous formulerions ainsi. Quand on fait croître d'une manière continue la quantité objective de lumière, les différences entre les teintes grises successivement obtenues, différences qui traduisent chacune le plus petit accroissement perçu d'excitation physique, sont des quantités égales entre elles. Et de plus, on peut égaler l'une quelconque des sensations obtenues à la somme des différences qui séparent les unes des autres les sensations antérieures, depuis la sensation nulle. Or, c'est là précisément le postulat de la psychophysique de Fechner que nous allons examiner. Fechner est parti d'une loi découverte par Weber et d'après laquelle, étant donné une certaine excitation provoquant une certaine sensation, la quantité d'excitation qu'il faut ajouter à la première pour que la conscience s'aperçoive d'un changement sera dans un rapport constant avec elle. Ainsi, en désignant par E l'excitation qui correspond à la sensation S et par delta E la quantité d'excitation de même nature qu'il faut ajouter à la première pour qu'une sensation de différence se produise, on aurait ici l'image. Cette formule a été profondément modifiée par les disciples de Fechner. Nous n'interviendrons pas dans le débat. Il appartient à l'expérience de décider entre la relation établie par Weber et celle qu'on y substitue. Nous ne ferons d'ailleurs aucune difficulté pour admettre l'existence probable d'une loi de ce genre. Il ne s'agit pas ici en effet de mesurer la sensation, mais seulement de déterminer le moment précis où un accroissement d'excitation la fait changer. Or, si une quantité déterminée d'excitation produit une nuance déterminée de sensation, il est clair que la quantité minima d'excitation exigée pour provoquer un changement de cette nuance est déterminée aussi. Et puisqu'elle n'est pas constante, elle doit être fonction de l'excitation à laquelle elle s'ajoute. Mais comment passer d'une relation entre l'excitation et son accroissement minimum à une équation qui lie la quantité de la sensation à l'excitation correspondante? Toute la psychophysique est dans ce passage qu'il importe d'étudier attentivement. Nous distinguerons plusieurs artifices différents dans l'opération par laquelle on passe des expériences de Weber ou de toute autre série d'observations analogues à une loi psychophysique comme celle de Fechner. On convient d'abord de considérer comme un accroissement de la sensation S la conscience que nous avons d'un accroissement d'excitation. On l'appellera donc delta S. On pose ensuite en principe que toutes les sensations delta S correspondant au plus petit accroissement perceptible d'une excitation sont égales entre elles. On les traite alors comme des quantités, et ces quantités étant toujours égales, d'une part, tandis que d'autre part, l'expérience a donné entre l'excitation E et son accroissement minimum une certaine relation, delta E égale F facteur de E, on exprime la constance de l'image en écrivant, ici l'image, C étant une quantité constante, on convient enfin de remplacer les différences très petites et par les différences infiniment petites, image et image, d'où une équation, cette fois différentielle, image. Il ne restera plus alors qu'à intégrer les deux membres pour obtenir la relation cherchée, image. Et l'on passera ainsi d'une loi vérifiée où l'apparition de la sensation était seule en cause, à une loi invérifiable qui en donne la mesure. Sans entrer dans une discussion approfondie de cette ingénieuse opération, montrons en quelques mots comment Fechner a saisi la véritable difficulté du problème, comment il a essayé de la surmonter et où réside, selon nous, le vice de son raisonnement. Fechner a compris qu'on ne saurait introduire la mesure en psychologie sans y définir d'abord l'égalité et l'addition de deux états simples, de deux sensations par exemple. D'autre part, à moins d'être identiques, on ne voit pas d'abord comment deux sensations seraient égales. Sans doute, dans le monde physique, égalité n'est point synonyme d'identité. Mais c'est que tout phénomène, tout objet, s'y présente sous un double aspect, l'un qualitatif, l'autre extensif. Rien n'empêche de faire abstraction du premier, et il ne reste plus alors que des termes capables d'être superposés directement ou indirectement l'un à l'autre, et de s'identifier ensemble par conséquent. Or, cet élément qualitatif, que l'on commence par éliminer des choses extérieures pour en rendre la mesure possible, est précisément celui que la psychophysique retient et prétend mesurer. Et c'est en vain qu'elle chercherait à évaluer cette qualité, Q, par quelque quantité physique, Q', située au-dessous d'elle, car il faudrait préalablement avoir montré que Q est fonction de Q', et ceci ne pourrait se faire que si l'on avait d'abord mesuré la qualité Q avec quelques fractions d'elle-même. Ainsi, rien n'empêcherait de mesurer la sensation de chaleur par le degré de température. Mais ce ne serait là qu'une convention, et la psychophysique consiste précisément à repousser cette convention et à chercher comment la sensation de chaleur varie quand varie la température. Bref, il semble que deux sensations différentes ne puissent être dites égales que si quelques fonds identiques demeurent après l'élimination de leurs différences qualitatives. Et d'autre part, cette différence qualitative étant tout ce que nous sentons, on ne voit pas ce qui pourrait subsister une fois que l'on l'aurait éliminé. L'originalité de Fechner est de n'avoir pas jugé cette difficulté insurmontable. Profitant de ce que la sensation varie par sauts brusques quand l'excitation croît d'une manière continue, il n'a pas hésité à désigner ces différences de sensation par le même nom. Ce sont des différences minima, en effet, puisqu'elles correspondent chacune au plus petit accroissement perceptible de l'excitation extérieure. Dès lors, vous pouvez faire abstraction de la nuance ou qualité spécifique de ces différences successives. Un fond commun demeurera par où elles s'identifieront, en quelque sorte ensemble. Elles sont minima les unes et les autres. Voilà la définition cherchée de l'égalité. Celle de l'addition suivra naturellement, car si l'on traite comme une quantité la différence aperçue par la conscience entre deux sensations qui se succèdent le long d'un accroissement continu d'excitation, si l'on appelle la première S et la seconde S+, delta S, on devra considérer toute sensation S comme une somme obtenue par l'addition des différences minima que l'on traverse avant de l'atteindre. Il ne restera plus alors qu'à utiliser cette double définition pour établir une relation entre les différents delta S et delta E d'abord, puis par l'intermédiaire des différentiels entre les deux variables. Il est vrai que les mathématiciens pourront protester ici contre le passage de la différence à la différentielle. Les psychologues se demanderont si la quantité delta S, au lieu d'être constante, ne varierait pas comme la sensation S elle-même. Enfin, l'on discutera sur le sens véritable de la loi psychophysique une fois établie. Mais par cela seul que l'on considère delta S comme une quantité et S comme une somme, on admet le postulat fondamental de l'opération entière. Or, c'est ce postulat qui nous paraît contestable, et même assez peu intelligible. Supposez en effet que j'éprouve une sensation S, et que faisant croître l'excitation d'une manière continue, je m'aperçoive de cet accroissement au bout d'un certain temps. Me voilà averti de l'accroissement de la cause. Mais quel rapport établir entre cet avertissement et une différence? Sans doute l'avertissement consiste ici en ce que l'état primitif S a changé. Il est devenu S'. Mais pour que le passage de S à S' fût comparable à une différence arithmétique, il faudrait que j'eusse conscience, pour ainsi dire, d'un intervalle entre S et S', et que ma sensibilité montât de S à S' par l'addition de quelque chose. Et en donnant à ce passage un nom, en l'appelant delta S, vous en faites une réalité d'abord, une quantité ensuite. Or, non seulement vous ne sauriez expliquer en quel sens ce passage est une quantité, mais vous apercevez, en y réfléchissant, que ce n'est même pas une réalité. Il n'y a de réel que les états S et S' par lesquels on passe. Sans doute, si S et S' étaient des nombres, je pourrais affirmer la réalité de la différence S' moins S, lors même que S' et S seraient seuls donnés. C'est que le nombre S' moins S, qui est une certaine somme d'unités, représentera précisément alors les moments successifs de l'addition par laquelle on passe de S à S'. Mais si S et S' sont des états simples, en quoi consistera l'intervalle qui les sépare? Et que sera donc le passage du premier état au second, sinon un acte de votre pensée, qui assimile arbitrairement, et pour le besoin de la cause, une succession de deux états, une différenciation de deux grandeurs? Ou vous vous en tenez à ce que la conscience vous donne, ou vous usez d'un mode de représentation conventionnel. Dans le premier cas, vous trouverez entre S et S' une différence analogue à celle d'une nuance de l'arc-en-ciel, et point du tout à l'intervalle de grandeur. Et dans le second, vous pourrez introduire le symbole delta S, si vous voulez, mais c'est par convention que vous parlerez de différence arithmétique. Par convention aussi, que vous assimilerez une sensation donnée à une somme. Le plus pénétrant des critiques de Fechner, M. Jules Tannery, a mis ce dernier point en pleine lumière. On dira, par exemple, qu'une sensation de 50 degrés est exprimée par le nombre de sensations différentielles qui se succéderaient depuis l'absence de sensation jusqu'à la sensation de 50 degrés. Je ne vois pas qu'il y ait là autre chose qu'une définition aussi légitime qu'arbitraire. Nous ne croyons pas, quoi qu'on en ait dit, que la méthode des graduations moyennes ait fait entrer la psychophysique dans une voie nouvelle. L'originalité de M. Delboeuf a été de choisir un cas particulier où la conscience parut donner raison à Fechner et où le sens commun fut lui-même psychophysicien. Il s'est demandé si certaines sensations ne nous apparaissaient pas immédiatement comme égales, quoique différentes, et si on ne pourrait pas dresser, par leur intermédiaire, un tableau de sensations doubles, triples, quadruples les unes des autres. L'erreur de Fechner, disions-nous, était d'avoir cru à un intervalle entre deux sensations successives, S et S', alors que de l'une à l'autre il y a simplement passage, et non pas différence, au sens arithmétique du mot. Mais si les deux termes entre lesquels le passage s'effectue pouvaient être donnés simultanément, il y aurait cette fois contraste en outre du passage. Et quoique le contraste ne soit pas encore une différence arithmétique, il y ressemble par un certain côté. Les deux termes que l'on compare sont en présence l'un de l'autre comme dans une soustraction de deux nombres. Supposons maintenant que ces sensations soient de même nature et que constamment, dans notre expérience passée, nous ayons assisté à leur défilé, pour ainsi dire, pendant que l'excitation physique croissait d'une manière continue. Il est infiniment probable que nous mettrons la cause dans les faits et que l'idée de contraste viendra se fondre dans celle de différence arithmétique. Et comme d'autre part, Nous avons remarqué que la sensation changeait brusquement, tandis que le progrès de l'excitation. Nous évaluerons sans doute la distance entre deux sensations données par le nombre, grossièrement reconstituées, de ces sauts brusques, ou tout au moins des sensations intermédiaires qui nous servent le plus ordinairement de jalon. En résumé, le contraste nous apparaîtra comme une différence, l'excitation comme une quantité, le saut brusque comme un élément d'égalité. Combinant ces trois facteurs ensemble, nous aboutirons à l'idée de différence quantitative égale. Or, nulle part, ces conditions ne sont aussi bien réalisées que lorsque des surfaces de même couleur, plus ou moins éclairées, se présentent à nous simultanément. Non seulement il y a ici contraste entre sensations analogues, mais ces sensations correspondent à une cause dont l'influence nous a toujours paru étroitement liée à sa distance. Et comme cette distance peut varier d'une manière continue, nous avons dû noter, dans notre expérience passée, une innombrable multitude de nuances de sensations se succédant le long d'un accroissement continu de la cause. Nous pourrions donc dire que le contraste d'une première teinte grise avec une seconde, par exemple, nous paraît à peu près égal au contraste de la seconde avec une troisième. Et si l'on définit deux sensations égales en disant que ce sont des sensations qu'un raisonnement plus ou moins confus interprète comme telles, on aboutira en effet à une loi comme celle que propose M. Delboeuf. Mais il ne faudra pas oublier que la conscience a passé par les mêmes intermédiaires que le psychophysicien et que son jugement vaut ici ce que vaut la psychophysique. C'est une interprétation symbolique de la qualité en quantité, une élévation plus ou moins grossière du nombre des sensations qui se pourraient intercaler entre deux sensations données. La différence n'est donc pas aussi considérable qu'on le croit entre la méthode des modifications minima et celle des graduations moyennes, entre la psychophysique de Fechner et celle de M. Delboeuf. La première aboutit à une mesure conventionnelle de la sensation, la seconde en appelle au sens commun dans les cas particuliers où il adopte une convention analogue. Bref, toute psychophysique est condamnée par son origine même à tourner dans un cercle vicieux, car le postulat théorique sur lequel elle repose la condamne à une vérification expérimentale, et elle ne peut être vérifiée expérimentalement que si l'on admet d'abord son postulat. C'est qu'il n'y a pas de point de contact entre l'inétendu et l'étendu, entre la qualité et la quantité. On peut interpréter l'une par l'autre, ériger l'une en équivalent de l'autre, mais tôt ou tard, au commencement ou à la fin, il faudra reconnaître le caractère conventionnel de cette assimilation. À vrai dire, la psychophysique n'a fait que formuler avec précision et pousser à ses conséquences extrêmes une conception familière au sens commun. Comme nous parlons plutôt que nous ne pensons, comme aussi les objets extérieurs qui sont du domaine commun ont plus d'importance pour nous que les étapes subjectives par lesquelles nous passons, nous avons tout intérêt à objectiver ces états en y introduisant, dans la plus large mesure possible, la représentation de leurs causes extérieures. Et plus nos connaissances s'accroissent, plus nous apercevons l'extensif derrière l'intensif et la quantité derrière la qualité, plus aussi nous tentons à mettre le premier terme dans le second et à traiter nos sensations comme des grandeurs. La physique, dont le rôle est précisément de soumettre au calcul la cause extérieure de nos états internes, se préoccupe le moins possible de ces états eux-mêmes. Sans cesse, et de parti pris, elle les confond avec leurs causes. Elle encourage donc et exagère même sur ce point l'illusion du sens commun. Le moment devait fatalement arriver où, familiarisé avec cette confusion de la qualité avec la quantité et de la sensation avec l'excitation, la science chercherait à mesurer l'une comme elle mesure l'autre. Tel a été l'objet de la psychophysique. À cette tentative hardie, Fechner était encouragé par ses adversaires eux-mêmes, par les philosophes qui parlent de grandeurs intensives, tout en déclarant les états psychiques réfractaires à la mesure. Si l'on admet en effet qu'une sensation puisse être plus forte qu'une autre sensation, et que cette inégalité réside dans les sensations mêmes, indépendamment de toute association d'idées, de toute considération plus ou moins consciente de nombre et d'espace, il est naturel de chercher de combien la première sensation surpasse la seconde et d'établir un rapport quantitatif entre leurs intensités. Et il ne sert à rien de répondre, comme font souvent les adversaires de la psychophysique, que toute mesure implique superposition et qu'il n'y a pas lieu de chercher un rapport numérique entre des intensités qui ne sont pas choses superposables. Car il faudra alors expliquer pourquoi une sensation est dite plus intense qu'une autre sensation, et comment on peut appeler plus grande ou plus petite des choses qui, on vient de le reconnaître, n'admettent point entre elles des relations de contenant à contenu. Que si, pour couper court à toute question de ce genre, on distingue deux espèces de quantités, l'une intensive, qui comporte seulement le plus et le moins, l'autre extensive, qui se prête à la mesure, on est bien prêt de donner raison à Fechner et aux psychophysiciens. Car dès qu'une chose est reconnue susceptible de grandir et de diminuer, il semble naturel de chercher de combien elle diminue, de combien elle grandit. Et parce qu'une mesure de ce genre ne paraît pas directement possible, il ne s'ensuit pas de là que la science n'y puisse réussir par quelque procédé indirect, soit par une intégration d'éléments infiniment petits, comme le propose Fechner, soit par tout autre moyen détourné. Ou bien donc la sensation est qualité pure, ou si c'est une grandeur, on doit chercher à la mesurer. Pour résumer ce qui précède, nous dirons que la notion d'intensité se présente sous un double aspect, selon qu'on étudie les états de conscience représentatifs d'une cause extérieure ou ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Dans le premier cas, la perception de l'intensité consiste dans une certaine évaluation de la grandeur de la cause par une certaine qualité de l'effet. C'est, comme diraient les Écossais, une perception acquise. Et dans le second, nous appelons intensité la multiplicité plus ou moins considérable de faits psychiques simples que nous devinons au sein de l'état fondamental. Ce n'est plus une perception acquise, mais une perception confuse. D'ailleurs, ces deux sens du mot se pénètrent le plus souvent, parce que les faits plus simples qu'une émotion ou qu'un effort enveloppent sont généralement représentatifs et que la plupart des états représentatifs, étant affectifs en même temps, embrassent eux-mêmes une multiplicité de faits psychiques élémentaires. L'idée d'intensité est donc située au point de jonction de deux courants, dont l'un nous apporte du dehors l'idée de grandeur extensive, et dont l'autre est allé chercher dans les profondeurs de la conscience, pour l'amener à la surface, l'image d'une multiplicité interne. Reste à savoir en quoi cette dernière image consiste, si elle se confond avec celle du nombre, ou si elle en diffère radicalement. Dans le chapitre qui va suivre, nous ne considérerons plus les états de conscience isolément les uns des autres, mais dans leur multiplicité concrète, en tant qu'ils se déroulent dans la pure durée. Et de même que nous nous sommes demandé ce que serait l'intensité d'une sensation représentative si nous n'y introduisions l'idée de sa cause, ainsi nous devrons rechercher maintenant ce que devient la multiplicité de nos états internes, quelle forme affecte la durée quand on fait abstraction de l'espace où elle se développe. Cette seconde question est autrement importante que la première. Car si la confusion de la qualité avec la quantité se limitait à chacun des faits de conscience pris isolément, elle créerait des obscurités, comme nous venons de le voir, plutôt que des problèmes. Mais en envahissant la série de nos étapes psychologiques, en introduisant l'espace dans notre conception de la durée, elle corrompt à leur source même nos représentations du changement extérieur et du changement interne, du mouvement et de la liberté. De là les sophismes de l'école d'Élée, de là le problème du libre arbitre. Nous insisterons plutôt sur le second point, mais au lieu de chercher à résoudre la question, nous montrerons l'illusion de ceux qui la posent. Fin du chapitre 1.